Drive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Outalk, c'est la discussion French Cloud.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet d'actualité qui n'a pas encore été traité sur notre chaîne Outalk, à savoir la RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises. D'actualité d'abord, parce que la transformation des entreprises durant cette période de crise a fait émerger de nouveaux comportements et ambitions chez leurs collaborateurs, avec la nécessité de trouver encore plus de sens à leur mission quotidienne. Pour beaucoup, la RSE s'est notamment révélée comme un élément moteur d'activité. D'actualité aussi, parce que les entreprises ont également compris leur rôle dans cette démarche RSE. Les réflexions ciblant leurs impacts environnemental et sociétal se développent, et la RSE devient même un outil indispensable pour attirer et retenir des talents ou encore renforcer sa crédibilité auprès du public. Alors entre engagement personnel et enjeux d'entreprise, la RSE se fait une place dans notre société, et il nous a semblé pertinent de l'évoquer au travers d'un épisode dédié. Cédric Mermillot, cofondateur et Head of Strategy d'Oudrive, nous partage sa vision de la RSE, en répondant aux questions toujours si pertinentes de Nicolas Lepochat, notre Marketing Campaign Manager.
Bonjour Cédric Mermillot.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi de commencer avec une question assez banale, mais de circonstance. Comment allez-vous ?
Très bien, très très bien. Le moral est bon. Franchement, je ne me plains pas.
Parfait. Alors pour commencer cette émission, parlons de vous et de votre parcours. Vous êtes cofondateur et directeur général de la stratégie Sign et Identity d'Oudrive. Sign qui correspond à une offre de signature électronique et Identity pour la délivrance de certificats électroniques hautement sécurisés. Pourquoi cette appétence pour le secteur de la tech ?
Je crois que l'appétence vient en mangeant. J'ai commencé cette aventure Oudrive avec mes associés Stanislas et Édouard de Rémur il y a 20 ans. J'avais à peine 25 ans et donc au fur et à mesure du temps, plus on s'intéresse au sujet et plus on est passionné. Donc la passion a poursuivi le parcours classiquement.
Et c'est une passion qui vous suit encore. Qu'est-ce qui vous anime tant dans votre métier ?
Je crois que ce qui m'anime, c'est de progresser. Changer, évoluer, j'ai besoin qu'il y ait de la nouveauté. Donc tant qu'il y a de la nouveauté, des progrès, des changements et que j'ai l'impression d'être utile, je suis heureux.
Et c'est une nouveauté que vous continuez à rencontrer ?
Mais j'essaye. D'ailleurs, le fait qu'on se rencontre aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est cher est un exemple justement des nouveautés qu'on peut vivre chaque année dans les entreprises.
Alors nous le savons, la crise sanitaire que nous traversons montre l'importance de la culture d'entreprise, vous en parliez tout à l'heure, dans sa flexibilité tant pour la protection de ses collaborateurs, et un critère qui a été propulsé sur le devant de la scène, c'est celui de la responsabilité sociétale des entreprises, ou plus communément appelé RSE. Et ce critère est devenu une condition incontournable pour l'attractivité et la rétention des talents. Quelle est votre définition de la responsabilité sociétale des entreprises ?
J'ai la définition que nous donne la loi. Je crois que si on regarde de façon assez schématique, le RSE, c'est de pouvoir concilier écologie, gouvernance et éléments sociétaux au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est assez clair. Après, ce que je crois, c'est que vous avez dit en introduction que c'était devenu quelque chose d'incontournable. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de paillettes autour de ce sujet. Je fais partie des gens qui considèrent que un des éléments d'avenir de notre société et donc de notre société commerciale, hein, et de nos entreprises et cet élément-là. Moi, je crois beaucoup au fait que une grosse partie de la relance après cette crise devrait être faite autour d'une relance verte et donc autour de ces sujets-là. Je pense que les gens sont prêts. Je pense que concrètement, les vrais travailleurs de ce pays sont vraiment prêts à enclencher la deuxième vitesse sur le sujet. Ils attendent de nos politiques justement qu'ils prennent leurs responsabilités. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, je crois qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de s'enclencher. En revanche, il y a une dichotomie entre cette dynamique qui vient, j'ai envie de dire, du peuple, c'est-à-dire de tout le monde, hein, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Tous les gens avec qui je peux discuter de ces sujets, je me rends compte qu'ils ont une vraie dynamique autour de ça et que cette dynamique, elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse d'emploi, elle est porteuse de productivité, elle est porteuse de beaucoup de choses positives. Et que, à côté de ça, quand on revient dans le quotidien et qu'on est un peu pris dans le quotidien, on voit que dans les directions générales, de l'ensemble du tissu économique, hein, que ce soit des très grands comptes comme des TPE-PME, ben finalement, ça passe un petit peu en deuxième, en troisième. Alors quand on... Quand on parle de relance verte, souvent je trouve que derrière, ça manque d'action, c'est souvent des mots. Et donc je crois que le RSE est devenu, et c'est déjà quelque chose de positif, quelque chose qui existe, partout. On peut pas dire aujourd'hui à une entreprise ou à une direction générale ou RH, est-ce que vous avez une politique RSE, et qui vous regardent comme de ronds de flanc. Je crois qu'ils savent maintenant ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment bien neuf? Je ne le crois pas. Et donc, je crois qu'il faut mettre en place des initiatives, mettre en place des obligations pour faire en sorte que cette transition se passe plus rapidement.
Alors, entre émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'eau et des sols, épuisement des ressources naturelles, les conséquences écologiques et environnementales du numérique prennent de l'ampleur à mesure que le secteur se développe. Un chiffre éloquent, selon le dernier rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en 2019, près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre étaient imputables au numérique. Pensez-vous que l'aspect écologique du numérique est aujourd'hui un sujet majeur au sein des entreprises de la tech ?
Oui. Alors, je pense que ces entreprises-là sont particulièrement sensibles à ces sujets pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, l'impact est très très fort. Le numérique, c'est 4%. Alors, pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous écoutent, tout l'aviation civile, c'est 2%. Donc, c'est deux fois plus que toute l'aviation civile. Et pourtant, qu'est-ce qu'on parle de la pollution des avions, les programmes qui ont été lancés par Airbus pour faire des biocarburants, enfin bref. Il y a beaucoup de sujets autour de ça. Et pourtant, on parle pas beaucoup du numérique. En revanche, les sociétés du numérique et de la tech qui emploient un très grand nombre d'ingénieurs et de commerciaux, enfin de gens qui sont souvent assez jeunes et qui sont très au fait de ces sujets, se sentent du coup très concernés parce que se rendent bien compte que c'est quelque chose qui vient de l'ensemble des gens qui participent justement à cette industrie et que donc on doit faire quelque chose. Donc oui, la réponse est oui. Je pense que les entreprises de la tech et du numérique sont peut-être en avance sur la mise en place de politiques RSE innovantes et intéressantes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces. Si vous prenez les GAFA, par exemple, ils ont tous eu des effets d'annonce extrêmement forts. Microsoft veut être empreinte carbone négative en 2030, et j'en passais des meilleurs. Derrière, il y a beaucoup de green bashing, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on dit des choses comme ça, et puis après, quand on décortique et on essaie de comprendre comment ils font, c'est un petit peu différent. Donc je crois qu'il faut vraiment, de mon point de vue, de la direction générale, prendre conscience que l'ensemble des gens qui composent cette industrie veulent que ça change, et il faut les impliquer dans ce changement et le mettre en œuvre.
Il y a un constat qui est sans appel, c'est que notre monde s'oriente vers une multiplication des objets connectés, que ce soit entre la TV, les smartphones, les tablettes, mais également des services cloud, les réseaux sociaux, le streaming, le travail collaboratif, vous en savez quelque chose, qui mécaniquement ne feront qu'augmenter l'impact environnemental du numérique. Est-ce que pour vous, l'usage massif du cloud et l'écologie énergétique sont inconciliables?
Non, c'est pas inconciliable. C'est oui, il y a un impact. Il y a un impact. Il faut pas le nier. Quand je vois les immeubles de data centers qui sont construits dans le désert aux États-Unis pour stocker l'ensemble des emails que l'on stocke sur les Google Drive et les Gmail et les trucs comme ça. Oui, c'est certain que l'impact, il est pas neutre. Ce que j'essaye et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que si on veut que ça change, il faut que individuellement on décide que ça change. Chez WooDrive, par exemple, plutôt que de mettre des sujets comme si vous êtes écologique, n'imprimez pas cet email, on dit moi si vous êtes écologique, supprimez-moi. Si je ne suis pas important, supprimez-moi. Et moi je pense que c'est par là qu'il faut aller, c'est-à-dire que ce stockage qui on considère le stockage des données à peu près double chaque année. Donc ça donne une idée de la quantité de machines qu'il va falloir pour stocker toutes ces données. Il va falloir qu'on commence à sérieusement se poser la question du tri et de faire en sorte de ne pas tout conserver. Parce que en fait c'est ça qui coûte tellement de carbone à la planète. Il faut qu'on fasse attention et qu'on accepte l'idée que on peut tout à fait utiliser des technologies modernes, innovantes et tout ce que vous avez cité, sans forcément ruiner la planète. On peut allier les deux.
Vous parlez du WooDrive, et nous le disions en début d'émission, vous êtes directeur général de la stratégie Sign et Identity, WooDrive, une société qui propose des solutions cloud hautement sécurisées de partage, de sauvegarde et de signature électronique, mais bien d'autres. Vient communiquer le 16 novembre dernier, WooDrive a affirmé de renforcer sa démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Et dans cette communication, Cédric, vous avez déclaré vouloir vous doter d'une politique structurelle d'éco-responsabilité qui visait à réduire durablement votre empreinte carbone. Comment est-ce que la RSE vit au sein de WooDrive ?
Justement, là, ça fait plaisir que vous me posiez la question parce que c'est le micro-exemple dans une PME de 400 personnes de comment ça devrait se passer de façon globale dans le pays. Elle vit grâce aux adhérents d'un groupe RSE qui s'est construit de façon assez simple autour d'une envie qu'ont eu les différents salariés de l'entreprise de faire vivre cette politique RSE justement. Alors on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier la partie gouvernance et la partie sociétale qui sont aussi traitées chez WooDrive. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une envie un certain nombre de gens qui se sont désignés eux-mêmes comme des porte-drapeaux dans différents départements, que ce soit RH, finance, évidemment recherche et développement, tout type de métier en fait. Et ils se sont intéressés au sujet et ils ont décidé de créer ce groupe pour faire des propositions. Et moi, je me suis proposé d'être leur relais auprès du comité de direction. Et je trouve que la puissance de ce groupe, c'est que justement les idées que je relaie à la direction, ou que parfois la direction me demande de relayer auprès d'eux, ce sont des idées collectives. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est pas la volonté d'une personne, une vraie bonne politique RSE. Il faut que ça englobe, il faut que ça embarque les gens. Et c'est là où vous arrivez à faire une transformation, c'est pas quand vous imposez quelque chose, c'est quand tout d'un coup ça s'impose à nous.
Quels sont les engagements à tenir pour assumer une telle démarche sociétale ?
Il faut d'abord répondre aux problématiques, c'est-à-dire que quand on nous pose des questions ou quand on nous préconise des choses, il faut pouvoir dire oui ou non, il faut expliquer si on peut le faire. Parfois on peut pas tout faire d'un coup, hein, parce que ça peut avoir des coûts pour l'entreprise, ça peut être trop transformant, on peut ne pas réussir à le faire tout de suite, mais il faut répondre. C'est-à-dire, il faut dire oui, ça on peut le faire tout de suite, on est d'accord, on le met en œuvre, et puis on nomme des gens pour le mettre en œuvre, et puis après ça non, parce que c'est trop tôt pour telle et telle raison, donc il faut un dialogue. Donc du coup, c'est comme ça qu'on met en marche des plans d'action. C'est-à-dire qu'on fait des propositions, le groupe RSE fait des propositions chez Woodrive, et ensuite le comité de direction les étudie, et en dialogue avec les représentants de ce groupe, met en œuvre un certain nombre de propositions. Donc on y va par étapes. La première étape qu'on a faite chez Woodrive, qui était fondamentale, c'était de mesurer notre empreinte. On a mesuré notre empreinte. Notre empreinte, c'est à peu près 930 tonnes de CO2 par an. Donc on l'a mesuré grâce à l'ADEME, on a mesuré grâce à des entreprises extérieures qui nous ont audité, qui nous ont tamponner cette audite et qui nous ont permis ensuite de pouvoir compenser. Ça, pour moi, c'est la base. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on a une tâche, hein, c'est notre consommation, on va la nettoyer en compensant. Mais ça, c'est le niveau de base. Mais c'est pas très intéressant. Le plus intéressant, c'est de dire, OK, maintenant que j'ai cette tâche, comment je fais pour la réduire? Parce que cette tâche, elle se reproduit chaque année. Donc, faut pas croire que juste que parce que vous payez un plan de reforestation ou de quoi que ce soit, vous êtes donné bonne conscience. C'est bien. Parce que on considère que 1% de l'empreinte carbone est compensée dans le monde, donc ça vous donne une idée de ce que c'est moderne comme démarche. Mais pour nous, ça suffit pas. C'est-à-dire que il faut montrer l'exemple bien au-delà de ça. Il va falloir mettre en place une politique structurelle de baisse de notre empreinte. Ça veut dire que la croissance de nos effectifs et de notre chiffre d'affaires doit être inversement proportionnelle à la croissance de notre empreinte. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en œuvre avec le groupe, puisqu'on a mis en œuvre cette première phase qui était de mesurer et de compenser. Et maintenant, on est en train de mettre en place un plan structurel de baisse.
Vous sentez une ferveur chez les collaborateurs de Drive dans ce projet ?
Oui, incontestablement. Et je crois que c'est positif pour tout le monde. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer en étant un peu l'intermédiaire entre les différents groupes qui s'intéressent à ça et surtout la direction. J'essaie de leur expliquer qu'il y a énormément d'aspects positifs dans ce qui est en train de se passer. D'abord parce que globalement, on fait ça quand même pour une cause qui est juste, qui est quand même de sauver la planète. Et ça, je pense que personne ne peut dire qu'il n'est pas pour. Tout le monde est plutôt pour. Alors, il y a des gens qui n'y croient pas, d'autres qui croient beaucoup. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on essaye. Donc ça, c'est plutôt une cause à laquelle tout le monde se rallie. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se partager entre les collaborateurs et le management. Et du coup, j'ai l'impression qu'on va arriver à des consensus très forts qui vont radicalement transformer notre façon de vivre l'entreprise. Et donc, je crois sincèrement que non seulement c'est positif pour la planète, ça va être positif pour l'entreprise. Je pense que les gens qui travaillent sur ces sujets-là sont très attachés à l'entreprise. Si l'entreprise fait vraiment ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle met en œuvre, et c'est pas que du bullshit, et qu'elle met en œuvre ces sujets-là, et du coup, elle est clean vis-à-vis de la confiance que met ce groupe RSE dans la direction. Si jamais tous ensemble, on met en œuvre ces sujets, alors je pense que les gens vont s'attacher fortement à l'entreprise et c'est positif pour l'entreprise parce que ce qu'on veut justement, c'est que les bonnes personnes restent, qu'on puisse les fidéliser, qu'on puisse travailler dans le temps avec eux parce que c'est ça la valeur d'une entreprise, c'est ces gens qui y travaillent. Et donc je pense que c'est un cercle hyper vertueux pour l'entreprise.
Comment a émergé cet attachement pour cette cause de votre côté ?
C'est assez personnel. Moi, j'ai des gens autour de moi qui se sont beaucoup intéressés à ces sujets. Moi-même, je trouvais ça intéressant, mais j'étais très loin de comprendre, de connaître. Donc, ça vient de plusieurs choses. J'ai un groupe de copains avec qui on discute souvent de ces différents sujets. Et puis, je leur ai demandé de m'aider, donnez-moi des bouquins à lire, des trucs. Donc, j'ai commencé à me renseigner. J'ai lu quelques trucs. J'ai rencontré quelques personnes qui étaient vraiment complètement dedans et qui m'ont passionné. Et puis, je me suis fait mon opinion. Et puis après, une fois que j'ai fait ça, j'ai essayé de convaincre mes associés, les différents collaborateurs que je peux voir au COMEX, au CODIR, et je me suis rendu compte que il fallait surtout pas que ce soit mon idée, en fait. Surtout pas que ce soit moi qui porte ce sujet-là tout seul, parce que finalement, c'est pas comme ça que j'envisage l'écologie ou une transformation de l'entreprise. Donc, j'ai eu l'idée de proposer avec les RH de créer ce groupe RSE. Et c'est là que la dynamique s'est prise. Et c'est ça qui est génial. C'est que cette dynamique, c'est pas la mienne. C'est la dynamique des collaborateurs, des collaboratrices de l'entreprise qui ont décidé de faire cette transformation-là. Donc, moi, personnellement, je comme tout le monde, bah, il y a beaucoup de sujets quand même aujourd'hui. Il y a beaucoup de reportages. Il y a beaucoup de choses. Il y en a qui étaient assez sublime, là, qui vient d'être fait sur France 5, sur ces sujets-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Donc, on peut facilement se documenter. Si ça vous intéresse, vous allez sur n'importe quel podcast, plateforme. Il y a des millions de choses à lire. Donc voilà. C'est venu assez naturellement. Mais ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que c'est pas du tout mon sujet. C'est notre sujet chez Moudreux.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de réussite, en tout cas, pour le déroulement de ce projet. Pour conclure, nous avons évoqué à de nombreuses reprises les impacts de la crise sur le RSE. Pensez-vous que le RSE est un vecteur de sortie de crise ?
C'est difficile de répondre à ça. Je pense que oui, je pense que l'écologie, c'est un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un vecteur pour que la société se transforme et que du coup, après le délabrement économique que je pense on va vivre, je pense qu'un des éléments de relance, c'est l'écologie. Donc je crois qu'il faut... Il faut aller à fond dans cette voie, il faut y croire et ça va générer de l'emploi, ça va générer énormément de positifs. Donc oui, je pense que d'une certaine façon, pas que le RSE, mais le RSE et l'écologie de façon globale sont des éléments qui vont nous permettre effectivement de sortir de cette crise.
Comment est-ce que vous imaginez le monde de demain ?
Je l'imagine. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif. Je crois que quand on est positif, on a déjà fait une partie du chemin. Donc on aurait tort de pas l'être. Donc je pense que le monde de demain, c'est un monde dans lequel, grâce justement à cette transformation écologique, on va réussir à conserver notre planète et que, en la conservant, on sera certainement passé dans une économie très différente de celle d'aujourd'hui, qui sera certainement une économie plus humaine, parce que cette crise écologique, elle nous ramène à des valeurs humaines, mais des valeurs aussi, l'écologie, c'est aussi la faune, la flore, et ces sujets-là, ils sont fondamentaux. Donc ça nous rapproche de la Terre, ça nous rapproche des êtres humains. Donc je pense que cette transformation, elle risque de nous faire du bien, humainement parlant. Donc je vois, si je devais résumer ça en une phrase, je pense que le monde de demain sera un monde plus humain. Bizarrement, alors que effectivement, comme vous le dites, peut-être qu'on se verra un petit peu moins tous les jours, mais je crois qu'on aura gagné de ce point de vue-là.
Et vous avez raison de le souligner. Notre podcast touche à sa fin. Merci Cédric Mermillot d'avoir été notre invité.
Merci.